Bonjour à tous. Je vais vous inviter à prier avant de commencer. Merci encore pour ta présence, ô Père, et merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour envers nous manifesté en Jésus-Christ. Et encore ce matin, tu nous rappelles comment cet amour est vaste. Et comment cet amour n'a pas de limite. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous sommes là encore ce matin, à tes pieds, faisant monter vers toi nos louanges, notre adoration, mais aussi, Seigneur, disposant nos cœurs à recevoir de toi. Alors je te prie, encore ce matin, que tu puisses nous édifier ensemble sur ta parole, et que cette parole qui est la vérité nous rende libres, et que cette parole aussi nous aide à marcher en conformité avec ta volonté. Bénis-nous en ce matin, et tu vois les problèmes techniques, mais nous te prions que toi qui es capable d'agir au-dessus de toutes ces choses, que tu puisses encore agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors le texte de ce matin sur lequel nous allons méditer un peu se situe en Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Je vous laisse le temps de voir chercher sur vos Bibles si elle est proche de vous. Et ce matin, nous allons essayer de voir comment Dieu exécute ce plan merveilleux qu'il a pour l'Église, comment il met ce plan en marche. Donc, depuis quelques semaines, au sein de l'Assemblée de Créteil, nous travaillons à mieux comprendre notre vocation d'Église. Qu'est-ce que l'Église de Créteil voulait dire? On a étudié les chapitres précédents de l'Épître aux Éphésiens. Et nous avons eu quelques vérités entre le dimanche de prédication, aussi le mardi. Nous avons pu relever quelques vérités concernant l'identité et la fonction du peuple de Dieu. Et parmi ces vérités, nous avons vu que l'œuvre de la croix a fait tomber le mur de séparation, le mur de l'inimitié qui nous séparait. Nous avons également vu que les païens peuvent désormais faire partie du peuple de Dieu. Et ensemble, l'ensemble des croyants, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous avons également vu, dans tous ces chapitres précédents, 1 et 2, que l'Église, et aussi au chapitre 3, le début du chapitre 3, que l'Église a pour vocation de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous avons eu cette application avec le pasteur en remplaçant l'Église par l'Église de Créteil, en particulier à cette vocation de faire connaître autour d'elle la vocation infinie variée de Dieu. Et mardi, aussi en étude avec le pasteur, nous avons vu en 1 Timothée, le chapitre 3, que l'Église, et là c'est par extension que l'Église est la colonne de la vérité. Alors je vous invite à faire cette lecture. Là, nous allons lire les versets qui constitue au fait la seconde prière de l'apôtre Paul dans cette épître. Verset 14. C'est pourquoi je mets le genou devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20. à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Dans sa première prière, l'apôtre demandait à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs, c'est-à-dire que nous soyons rendus capables de comprendre et d'avoir une vision juste de l'espérance et de l'héritage que nous avons en Christ. Et là, dans cette seconde prière, il est question de, il est toujours aussi que les croyants aient une vision juste de tout le plan de Dieu. Mais un accent mis particulièrement sur les fruits et sur les conséquences que doivent engendrer ces révélations. Il ne faut pas que ces révélations restent juste au niveau de la tête, mais il faut qu'elles descendent dans le cœur afin qu'elles deviennent une pratique. Parce qu'en effet, connaître les vérités bibliques est capital dans la vie du croyant, mais une connaissance sans pratique est vaine. Donc il est indispensable pour le disciple que son vécu soit comme un écho, soit en résonance avec sa connaissance, la connaissance qu'il a du Christ. Ainsi, puisqu'il est question de l'unité, dans le texte, puisqu'il est aussi question de l'unité, l'unicité du peuple de Dieu, nous essaierons de comprendre la mise en œuvre de ce plan divin au sein de ce nouveau. Voilà, vous entendez maintenant? Donc, nous disions que dans cette seconde prière de l'apôtre, il est question pour les croyants qu'ils aient une vision juste du plan de Dieu. Mais un accent est mis sur les fruits et sur les conséquences que doivent engendrer ces grandes révélations dans leur vie. Il est indispensable, nous avons dit, que pour les disciples, que la vie soit en conformité avec la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu. Le disciple doit refléter ce qu'il connaît de Christ. Dans ce texte, puisqu'il est question de l'unité aussi du peuple de Dieu, l'unicité de ce peuple, nous essaierons là de comprendre la mise en œuvre de son plan divin au sein de ce peuple. Nous allons voir comment Dieu, comment le Père travaille à ce que le peuple, son peuple, soit uni. Alors même que des clivages existent entre les peuples, nous voulons voir comment Dieu rend-il des hommes et des femmes de tout horizon capable d'annoncer au monde, visible et invisible, son infinie sagesse. Le verset 16 nous dit que je lui demande qu'il vous accorde à mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné solidement, fondé dans l'amour. Dieu met ce plan d'unité dans l'Église déjà par l'action de son Esprit. Ici, nous voyons dans ces versets le rôle important que joue le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui a pour rôle d'appliquer les glorieuses richesses qui sont en Christ dans la vie du croyant. En effet, c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme adamique qui naît de nouveau, c'est par cet esprit que l'homme naturel, l'homme adamique, naît de nouveau. C'est par lui que l'œuvre de rédemption accomplie à la croix par Christ est appliquée aussi dans la vie de celui qui croit. C'est par l'Esprit de Dieu en nous que nous intégrons cette grande famille de Dieu. Donc, nous pouvons dire que c'est lui qui nous fait naître à cette nouvelle vie, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui nous fait croître vers la stature parfaite de Jésus-Christ. L'esprit de vérité qui illumine les croyants concernant l'œuvre de Dieu en Christ est le même qui œuvre afin que le nouvel homme devienne un homme solidement fondé sur la personne de Jésus-Christ. L'expression « homme intérieur » renvoie la notion du cœur de l'individu. Nous avons déjà vu par avant que ce terme renvoie à tout ce qui est au centre de l'intelligence, c'est à ce lieu que se prennent les décisions profondes de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui oriente ses choix. Pour l'homme intérieur, le croyant, Cet être intérieur, désormais, est tourné vers Dieu, vers la volonté de Dieu. Mais cependant, ce verset nous révèle que cet homme intérieur, comme tout être qui naît, a besoin aussi de grandir. Voyons un enfant, est un homme, c'est un enfant qui est un enfant, est un homme en devenir. Cependant, avant qu'il devienne un homme ou une femme mature, cet enfant devra passer par différentes étapes. Et ces étapes, ces expériences de la vie ne sont pas forcément toutes agréables. Et parfois, de ces situations désagréables qu'il va rencontrer, ces situations vont le conduire à la maturité, vont faire de lui un homme et une femme responsables. Donc l'esprit, comment il s'y prend? Donc le texte nous dit que, afin de nous rendre matures, afin de nous fortifier, afin de nous rendre solides, le Christ, il fait habiter, c'est lui qui fait habiter Christ dans nos cœurs par la foi, en sorte que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Nous allons, ce terme-là, nous allons le laisser pour mardi prochain. Ce mardi, nous allons revenir sur ce texte afin d'aller plus en profondeur sur tout ce que ça veut dire que le Christ habite dans nos cœurs. Mais en tout cas, nous sommes là présentement, nous sommes devenus le lieu d'habitation de Christ. Et plus nous nous enracinons dans l'amour, et plus la base de cette action prend source dans l'amour, et plus le Christ se trouve à la place dans cette nouvelle habitation. Cet ancrage et le fondement de cet amour soulignent, en d'autres termes, la progression, la croissance du disciple, comme nous l'avons dit, vers la croissance, vers la stature parfaite de Christ. Donc nous pouvons dire que plus le Christ tient le premier plan dans nos vies, et plus nous progressons dans l'amour. Cet amour divin qui est le seul vrai capable de rapprocher les hommes. Même si son expression, l'expression de cet amour vécu est imparfaite encore dans nos assemblées, c'est vrai. Mais Christ, rappelons-le, a fait tomber le mur de l'inimitié entre les hommes. Mais tout cela nous montre encore que nous avons à progresser. Cela veut dire encore que nous n'avons pas tout saisi, tout compris, mais que nous sommes en marche, nous sommes dans cette progression. Et dans cette progression, dans cette compréhension, c'est aussi le plan de Dieu, que nous puissions comprendre les dimensions de l'amour manifesté en Christ. Dieu met son plan d'unifier son Église, son peuple, par la compréhension des dimensions de l'amour de Christ. Le verset 18 nous dit: « Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long et élevé et profond. » L'action du Saint-Esprit qui fait devenir le croyant l'habitation de Christ par la foi, elle a pour cette finalité de rendre le croyant capable, avec l'ensemble des rachetés, de le rendre capable de comprendre les dimensions de l'amour de Christ. La compréhension de cette œuvre, de ce plan, de cet amour est capitale pour que le peuple de Dieu lui-même soit uni. L'apôtre va souligner quelque part, quelque sorte, deux facettes indissociables de cet amour. La première facette, c'est que l'amour ne se vit pas de manière individuelle. On ne peut pas aimer en étant isolé. L'amour se vit en communauté. Et cet amour nous appelle à vivre au sein de cette assemblée de rachetés. Et une des expressions de cet amour, on le retrouve dans l'Église locale. On parle de l'Église, mais l'expression de ce grand peuple, c'est l'Église locale. Nous ne pouvons pas vivre l'amour en étant des chrétiens isolés, seuls, rester chez soi et se dire que nous faisons partie du peuple de Dieu. Cet amour se vit au sein d'une communauté où nous nous impliquons, où nous nous côtoyons, où nous apprenons aussi à nous supporter les uns des autres. Une pierre seule ne constitue pas un bâtiment. Mais à juste titre, lorsque nous avons vu le mardi, c'est des pierres mises l'une à côté de l'autre qui forment une maison, qui forment une habitation. Alors pour former cette habitation, cette maison de Dieu, il devient impératif pour nous, l'ensemble des saints, de comprendre le lien, la nature du lien qui nous unit. Et c'est pour cela que Paul prie afin que l'ensemble des croyants, sur toute génération, soit à même de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour que Christ a manifesté. Ici, il me semble que nous touchons un peu du doigt, un peu à ce qu'est le projet de Dieu, même à ce qu'est peut-être l'être de Dieu. Nous touchons un peu du doigt, nous voyons un peu, peut-être imparfaitement, ce qu'est le cœur de Dieu. La parole nous dit que Dieu est amour, et que Christ est la manifestation ultime de cet amour. Lui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui nous révèle cet amour. Et pour nous, il est, comme je le disais, capital de comprendre ce que ça veut dire. Car de la compréhension de ce que produit cet amour, notre amour propre, notre amour nous-mêmes, prend sa source là. C'est de la compréhension de cet amour que nous apprenons nous-mêmes à aimer les uns les autres. Et pour, je vais lire un extrait d'une citation de Rhys Steadman, c'est une de ses prédications que nous pouvons retrouver dans le livret 4 de l'ITA, les attitudes de cœur, et qui propose, à mon sens, une analyse de cet amour et qui fait sens. Donc je vais lire un peu cet extrait de ce qu'il propose dans l'une de ses prédications. Il dit que les différentes références à cet amour renvoient à certains points que l'apôtre avait déjà énumérés un peu plus haut dans les chapitres précédents. Et il nous dit que la longueur est ce qu'on appelle l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Et là, on est au chapitre 1, verset 18. Cette espérance qui est née bien avant la fondation du monde, dans l'éternité passée, et qui s'étend sur tout ce qu'on peut mesurer en termes de temps jusqu'aux confins inaccessibles, infinis de l'éternité à venir. C'est la longueur et l'étendue du programme de Dieu. Nous sommes emportés dans le courant, dans l'entreprise immense, cosmique de Dieu, de réunir toutes choses en Christ. C'est à cette espérance que nous sommes appelés. La longueur, donc, renvoie à l'espérance à laquelle nous sommes appelés, une espérance qui est de toute éternité, et qui était de réunir le peuple de Dieu ensemble en Christ. La largeur, elle fait référence à ce qu'on appelle les richesses insondables de Christ. Et là, on le retrouve au chapitre 3. Et c'est cette richesse qu'on annonce que les Juifs et les païens, désormais, font partie de même peuple. Ils font partie de l'Église. Sans qu'on tienne compte des différences et sans qu'ils aient des divisions. Noirs, les blancs, les riches, les pauvres, les esclaves, les individus libres, les hommes, les femmes, peu importe, ils sont tous un. Et nous voyons que cette largeur nous parle de cette fraternité de l'humanité. La hauteur l'indique le lieu où nous sommes en Christ, ressuscité pour siéger ensemble avec lui dans le monde céleste. Et là, on le retrouve, chapitre 2, verset 6. Bien au-dessus des principautés et des puissances des autorités, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Là, il s'agit d'une position d'autorité pour le chrétien, une position qui nous confère le pouvoir d'être libérés de tout ce qui voudrait nous asservir, et pour vivre au-dessus de tout ce qui, dans notre vie, voudrait corrompre et démolir et détruire. Et finalement, on parle de la profondeur. Cette profondeur, on retrouve encore dans le chapitre 2, on parle de de la mort dans laquelle nous vivions et à laquelle Dieu nous a arrachés par son appel. Dans cette mort, nous étions les victimes, non et non les vainqueurs, conformant notre manière de vivre à celle du monde. Je vais passer. Au fait, nous étions, comme il dit, nous étions des enfants de colère. Mais par la mort de Christ, nous avons été sortis de cette corruption humaine. Et Dieu nous a appelés, transportés dans les hauteurs avec Christ. Voilà ce que l'auteur en tire des différentes dimensions de la mort de Christ. Ainsi, nous comprenons que la nature et la puissance que l'amour de Dieu, celui de Christ, qu'il a déployé pour que chacun soit sanctifié et qu'il fasse partie de l'Église, à cela nous devons être sensibles. Nous devenons sensibles aux besoins des uns des autres. Paul nous dit que cet amour qu'on ne peut mesurer et qui dépasse toute connaissance, il nous dit que nous pouvons le connaître. Mais comment pouvons-nous connaître quelque chose qu'on ne peut mesurer et qui même qu'on ne peut connaître? Et par les différentes propositions qui ont été faites, nous voyons que cet amour s'est manifesté de manière claire. Il s'est manifesté dans un plan. Ce n'est pas un amour qui est resté abstrait. C'est un amour qui s'est mis en place dans un plan. Un plan qui avait trait de toute éternité, dans la pensée de Dieu. Et il semble que cet amour, le fait que lui-même cet amour soit devenu palpable et réel, nous pouvons le connaître en l'expérimentant. C'est en le vivant que nous pouvons connaître cet amour. Donc cet amour, on voit qu'il est si grand, si vaste à notre échelle, cela nous dit aussi que de notre vivant, nous sommes appelés à grandir encore dans cette connaissance de l'amour. Ça ne sera jamais, jamais fini jusqu'à notre mort. Enfin, Dieu met en place son plan d'unité en œuvre dans l'Église par la manifestation de sa plénitude, de sa présence au sein de son Église. Nous venons voir que la compréhension de l'amour, de cet amour est essentielle. Il est d'autant plus important car c'est en le vivant, en vivant ce projet d'amour que Dieu a fait, qui nous permet d'être rempli, qui nous permet d'être rempli de la plénitude de Dieu. Le verset nous dit que c'est en lui que tout édifice, chapitre 2, s'élève, c'est en Christ que l'édifice s'élève bien ordonné pour former un peuple saint dans le Seigneur. C'est en Christ que nous avons été édifiés pour être, par le Saint-Esprit, une demeure où Dieu habite. La plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit est un état que l'enfant de Dieu doit continuellement chercher. Et c'est un ordre que nous voyons dans le chapitre 5, au verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cette idée de plénitude, nous voyons, se retrouve encore dans traverse même le chapitre des Éphésiens. On le retrouve à plusieurs chapitres. Chapitre 1, 10, 23, 3, 19, etc. Et donc le terme grec qui désigne la plénitude, il veut dire l'abondance, il veut dire la totalité, il veut dire l'accomplissement. Je veux dire que la plénitude de Dieu au sein de son peuple est l'un des critères de l'Église. Cette plénitude dans l'Église révèle également son importance. L'importance de l'Église. L'importance de l'Église dans le plan de Dieu. Car l'Église, elle a pour, comme nous l'avons dit, vu que l'Église, elle a pour vocation de faire connaître aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes et sur la terre aussi, la sagesse infinie variée de Dieu. Une Église où Dieu habite est un lieu où sa sagesse s'exprime et un lieu où sa puissance de transformation est à l'œuvre. C'est le lieu où l'évangile de Jésus-Christ est annoncé, que cette bonne nouvelle du salut bouleverse encore des vies. Car l'amour de Dieu est non seulement annoncé, il est pleinement annoncé, mais aussi vécu. La question pourrait être alors pour nous, qu'en est-il de notre assemblée de Créteil? Nous arrivons à la fin de cette année et nous, si nous devions faire un bilan, que serait-il? En tout cas, pour ma part, je vois que cette assemblée, le témoignage de cette assemblée semble être connu. Et je crois que Dieu lui-même dirige les pas de nombreuses personnes en son sein. Et nous le voyons avant le confinement, nous l'avons vu, les différents témoignages, les différentes personnes qui sont arrivées, disant « Nous cherchons une église et nous sommes arrivés là. » Et que ces personnes témoignent qu'elles ont été bénies. Et nous croyons qu'il n'y a pas de fruit du hasard, car l'Éternel prend soin de ceux et de ceux qu'il aime. Et c'est lui qui aussi dirige ses pas. Mais fort de ce constat, est-ce que nous devons nous reposer sur nos lauriers? Je crois que nous devons encore progresser. Comme le texte nous dit, rechercher, nous devons chercher sans cesse à être remplis du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Cela fait partie de ce qu'on caractérise notre croissance, notre capacité à que Dieu soit parmi nous, sa présence soit effective et vécue parmi nous. Je crois que la situation qui est préoccupante dans le pays est un moyen entre les mains de Dieu pour que notre assemblée aussi de Créteil puisse progresser dans son témoignage d'amour. Pour que notre assemblée de Créteil puisse encore progresser dans le fait que sa foi soit solide, mais que son amour aussi grandisse, et que cet amour soit manifeste. Que cet amour soit manifeste autour, dans ce lieu de localisation. Dieu nous appelle encore une fois à être, plus que jamais, je crois, sel et lumière dans cette société en perte de saveur. Donc, en somme, la prière de l'apôtre, je crois, est riche en enseignement. Elle exprime, quelque part, la dépendance de l'Église et l'action de Dieu en elle. L'Église est l'Église de Dieu. Elle lui appartient et elle dépend aussi de lui. Nous avons vu que le plan de Dieu, qui est de se former un peuple qui témoigne de sa sagesse infinie, est mis en œuvre par le Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître la vie nouvelle. Et c'est également lui qui nous conduit afin de nous enraciner, de nous faire croître dans l'amour de Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait habiter Christ dans nos cœurs par la foi. Son action en nous est de nous rendre capables de comprendre et de vivre les dimensions de l'amour de Christ qu'il a manifesté. Cet amour est le ciment qui nous unit. Ce ciment qui unit l'ensemble des enfants de Dieu. Nous avons vu que l'Église comprend et vit l'amour. Lorsque l'Église comprend et vit l'amour qui vient de Dieu, alors elle-même, elle est remplie de la présence du Seigneur. Par sa présence, en son sein, nous pouvons voir la restauration des vies brisées, le pardon des péchés, les réconciliations, l'amour, la manifestation de l'amour fraternel, les repentances, les conversions. Encore, nous avons eu la grâce de Dieu de voir deux jeunes hommes s'engager sur la voie de Dieu, en passant par les eaux du baptême. Donc, en d'autres termes, nous pouvons voir, lorsque toutes ces choses sont manifestes, que la vie de Dieu est pleine au sein de son Église. Mais ce texte aussi nous montre que le plan de Dieu s'accomplit au travers des prières. Le plan de Dieu est que le croyant, celui qui prie aussi, soit associé à ce plan de Dieu. L'apôtre Paul va prier en fonction de sa compréhension du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas forcément connaître parfaitement le plan de Dieu, mais Dieu, nous l'avons vu encore dimanche dernier, à travers le livre de l'Apocalypse, comment les prières des saints, la prière des saints est importante. Elle fait partie du plan de Dieu. Donc la prière des saints aussi fait partie du plan de Dieu pour que l'Église croisse, pour que l'unité se fasse au sein du peuple de Dieu. L'apôtre a prié afin que les saints de toute génération soient à même de connaître l'inconnaissable et de mesurer ce qui ne peut être mesuré. Mais nous croyons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous invite à finir cette méditation par la lecture de la doxologie, c'est-à-dire cette prière qui a la gloire de Dieu, qui se trouve à la fin de cette prière, à partir du verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, et nous voulons dire à lui soit la gloire également dans l'Église de Créteil, en Jésus-Christ, pour toutes les générations qui sont aussi, veut nous succéder et pour l'éternité. Amen. Mardi prochain, mardi qui arrive, nous allons continuer sur ce texte. Nous, comme les chrétiens de Béret, nous allons encore plonger nos yeux dans l'Écriture et chercher à comprendre encore d'autres applications valables pour nous dans nos vies. Et je veux prier pour terminer. Seigneur, merci encore de nous rappeler que ton plan, et comme nous l'avons vu tout au long de cette matinée, que ton plan est un plan d'amour, celui de nous réconcilier avec toi et de réconcilier les hommes les uns avec les autres. Tu nous appelles à comprendre cette dimension, à comprendre, à saisir là où nous étions, comment nous étions perdus, comment nous étions loin de toi, égarés loin de toi, et que ton amour, comme nous l'avons encore chanté, ne s'est pas arrêté aux difficultés, n'a pas regardé les hauteurs, n'a pas regardé les dimensions de notre faute, n'a pas regardé la dimension de notre perte, mais tu es venu jusqu'à nous. Cet amour t'a conduit à venir, à t'incarner sur cette terre et à marcher parmi les hommes et à manifester en Jésus-Christ l'amour parfait. Et Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides encore à vivre cet amour parfait. À vivre cet amour qui dépasse nos différences. À vivre cet amour qui dépasse, s'il te plaît, nos querelles, éternel, notre Dieu. Mais nous voulons aimer comme toi tu es. Alors s'il te plaît, aide-nous encore à nous enraciner dans ta parole et à nous enraciner en Jésus-Christ. Et nous te prions afin que nos cœurs, nous puissions apprendre à aimer comme toi. Au nom de Jésus. Amen.